Les colloques du Collège de France.
Bien, je vous remercie, vous êtes restés en grand nombre jusqu'au bout, donc ça prouve la qualité des intervenants. Et comme d'ailleurs, ils ont vraiment été très bons, je ne sais pas s'il me reste quelque chose à dire, sinon je répéterai ce qui a déjà été dit. On a tous montré l'importance de l'année 1979, compte tenu évidemment qu'il ne s'agit de que quelques mois, que c'est un tournant, etc. Bon. Alors, il faut d'abord reprendre quelques idées, ce sera un peu dans le désordre. D'abord sur l'image ici, elle est amusante parce qu'elle renvoie à l'imaginaire du croissant, qui n'est pas un symbole de l'islam à l'origine, contrairement à ce que les gens croient. Et donc si vous voyez un bouquin sur les croisades, disons la croix et le croissant, vous êtes sûr que c'est mauvais, vu qu'il n'y avait pas de croissant musulman à l'époque des croisades, puisque le croissant est un symbole de l'Empire ottoman, et peut-être même un symbole de l'Empire byzantin qui le précède, vu la forme tout simplement de l'Empire sur deux, trois continents. Et la viennoiserie, dit la tradition, je ne peux pas vous garantir la véracité, viendrait du fameux siège de Vienne de 1683, où les boulangers de Vienne, faisant leur pain durant la nuit, ont entendu les sapeurs ottomans en train de faire des mines sous les murs de Vienne. Et donc, ils ont provoqué une contre-attaque des défenseurs de la ville. Et en souvenir de cet exploit, les boulangers auraient créé cette viennoiserie, donc un croissant, qui serait ensuite passé en France en particulier. Donc sur l'image, on a les deux, le symbole de l'islam et le gâteau, ici pour aborder cette question essentielle. Ça nous renvoie aussi tout simplement à l'idée de Moyen-Orient. Où commence le Moyen-Orient, où se termine le Moyen-Orient, bon, vous avez autant de définitions du Moyen-Orient que vous avez des spécialistes du Moyen-Orient. Bon, le plus simple, c'est de dire d'abord c'est l'espace entre la Méditerranée et l'océan Indien. C'est relativement simple. Moi, il y a ma définition qui est rigoureusement anti-scientifique, mais qui nous ramène à la problématique d'aujourd'hui. Le Moyen-Orient, c'est là où il y a des musulmans et des ennuis, quand je suis poli. Sur le terme ennui. Bon, dès 1971, le Quai d'Orsay a transformé l'ancienne et antique direction d'Afrique-Levant en Afrique du Nord au Moyen-Orient, à NMO. Et les Américains ont suivi un peu plus tard, puisqu'ils disent MENA, Middle East, en North Africa. Donc maintenant, c'est MENA, NMO, qui, je crois, va rester le terme durable. Alors je dis toujours, donc je profite pour encore le citer ici, qu'il y a deux principes fondamentaux pour comprendre cette région du Moyen-Orient. Il y a d'abord tout et dans tout et réciproquement. Et ça se voit sur les échelons et sur les emboîtements de pouvoir qu'il y a ici. On va du local jusqu'à l'international par des successions de palier par un jeu permanent d'ingérence et d'implication. Il y en a qui sont champions du genre, prenez par exemple les Kurdes d'Irak, ils ont commencé par des protégés soviétiques au début du second après-guerre. Barzani était en Asie centrale en exil. On l'a fait, paraît-il, le maréchal de l'Union soviétique, mais ça c'est une blague, je crois que c'est simplement une photo de lui en uniforme soviétique qui a répandu cette légende, mais il est mort dans un hôpital américain. Et quand il y a eu le renversement des alliances en Irak, il y a eu le fait que ce n'étaient plus les soviétiques qui soutenaient les Kurdes, mais c'était les Israéliens, les Iraniens et les Américains. Et ainsi de suite. Donc, on voit bien cette gradation du local à l'international. Et la guerre froide dans la région, bon, elle a été d'abord une projection externe, C'est-à-dire qu'en 1945, l'ensemble de la zone Moyen-Orient était zone occidentale. Donc l'Union soviétique était pensée comme une menace externe. Les Soviétiques allaient débouler par le Caucase, faire la manœuvre qu'Hitler avait voulu faire en 1942, mais qu'eux, ils avaient les moyens de faire, et qu'il fallait donc protéger le Moyen-Orient de la menace soviétique. Alors, quand on regarde les plans de contingence occidentaux, c'est tout à fait amusant, puisqu'en 1947, on arrête les Soviétiques à Suez. En 49, du côté de la frontière, enfin à peu près du niveau d'Israël, Palestine. 50-51, on est autoroute. Et puis, quand on a bien l'OTAN et tout, on arrête les Soviétiques sur le Caucase et le jeu est terminé. Donc, c'est d'abord cette menace, mais cette menace qui implique de faire impliquer les gens. La Turquie a des intérêts propres, parce qu'elle est menacée par les Soviétiques, pour exiger d'entrer dans l'OTAN. Alors évidemment, quand on fait un traité de l'Atlantique Nord et qu'on se retrouve au Caucase, on a toujours eu des problèmes de géographie. Mais bon, c'est comme cela. Et puis ensuite, le second moment, c'est 1955, quand Nasser implique l'Union soviétique du côté des Arabes dans le conflit Israël-Pays arabe. À ce moment-là, vous avez un emboîtement total entre la guerre froide et le conflit israélo-arabe, au point que l'un n'est plus distinguable de l'autre. Mais en même temps, chacun des acteurs joue à l'intérieur de cet emboîtement. Et c'est un peu aussi ce qu'on voit en 1979, avec ce jeu. Si les Américains interviennent au Moyen-Orient, d'abord ils ont des intérêts stratégiques pétroliers, etc., mais ça n'a pas le temps d'en traiter aujourd'hui, mais c'est essentiellement par rapport à Israël dans cette période-là. Mais Israël, non pas parce que c'est un enjeu stratégique, l'enjeu stratégique il est dans le Golfe, c'est parce que c'est un enjeu de politique intérieure américaine. Donc on voit là cet emboîtement, puisque ça va jusqu'à l'intérieur de l'opinion publique américaine. On a souvent évoqué aujourd'hui les événements les plus récents depuis le 7 octobre, mais nous voyons combien le conflit actuel se répercute à l'intérieur de nos propres sociétés avec violence et virulence, c'est-à-dire que l'emboîtement dépasse le cadre étatique pour toucher directement nos sociétés. Et ça, on le voit évidemment en 1979, comme on le voit en 2024, et comme on risque de le voir longtemps encore. Alors, 1979, on a dit un peu le retour de Dieu, la vengeance de Dieu. Il n'était plus dans les banlieues européennes, il était de nouveau au Moyen-Orient. Alors, on a longuement évoqué les différentes questions de ce surgissement brutal de l'islamisme. On a rappelé qu'il existait depuis longtemps. L'islamisme, il y a une généalogie de l'islamisme, et dans le monde arabe, on peut même dire qu'il faut attendre les années 50 pour que l'islamisme et l'arabisme se distinguent. Parce qu'il existait un arabo-islamisme. Et après tout, Hassan al-Banna parlait déjà de trois cercles avant Nasser. C'est la rupture des années 50 entre le nationalisme arabe et l'islamisme qui a rejeté l'islamisme sur le bord, d'abord par la répression, mais aussi par le succès même des entreprises de modernisation autoritaire des révolutions arabes, qui faisaient que ils n'avaient plus qu'à se réfugier en Arabie Saoudite. Dès qu'ils ressortaient un peu, ils étaient traités d'agents de la réaction et de laquais de l'impérialisme. C'est les années 70 qui vont les réintroduire sur la scène. Alors, soit parce qu'il y a une remontée, une réislamisation des sociétés, ou une vraie islamisation des sociétés, ça on peut en discuter longtemps, mais c'est le fait qu'ils vont progressivement polariser, et très vite. Si vous prenez 1974, je pense, 73-74, je pense aux éditoriaux de Haïkal, dans El Aham, au lendemain de la guerre de 73, dans lequel il parle d'un nouvel homme arabe, moderne, réussi, etc. Et puis 5 ans après, on a les islamistes. Donc, on a l'impression d'une régression. Et donc, comment on perd le nouvel homme arabe? Et comment on perd, quelque part, le grand succès de 73, où on fait la nique à l'Europe et au monde avec l'embargo pétrolier, etc. Et puis on se retrouve en 79 appelé Maman Bobo parce qu'il y a des mouvements islamistes un peu partout dans la région. Alors on a toujours évidemment les pièges, les complexités ou les difficultés de l'histoire contrefactuelle. S'il en avait eu, le chat aurait peut-être tenu. Et s'il avait tenu, on n'aurait peut-être pas eu le reste. Ça, on ne peut pas le prouver, c'est absolument de l'ordre de l'improuvable. Et là, on est dans le fait que, finalement, le sort d'un pays, voire d'une région, a tenu dans la santé et dans le moral d'un homme. Et s'il avait eu la détermination, comme Farhad nous l'a rappelé, qui est la détermination du pouvoir iranien actuel, il aurait fait un bain de sang et la question aurait été réglée. Il a refusé le bain de sang, où il n'a pas été suffisant. Les Américains l'avaient poussé un moment à faire le bain de sang, mais il ne l'a pas voulu. Alors bon, donc c'est les faiblesses psychologiques du personnage, etc. On peut discuter longtemps, mais ça nous ramène à cette question du contrefactuel et du poids des personnalités. Mais nous sommes tous d'accord pour vous dire qu'à partir du moment en février 79, où la révolution a gagné, eh bien, tout est joué, parce que c'est montrer aux autres que c'est possible. Aussi bien en Égypte, en Syrie, en Irak, etc. Si les islamistes iraniens ont réussi à prendre le pouvoir, nous pouvons prendre le pouvoir. Jusque-là, on ne pouvait pas se poser la question du pouvoir, parce qu'avec chaque fois, on avait été balayé. Par la répression. Et c'est ça l'élément essentiel de 79, c'est cette prise de pouvoir par les islamistes qui crée un modèle, et ensuite un contre-modèle, puisqu'il y aura une réponse avec le djihadisme sunnite qui sera profondément anti-chiite. Et on aura des choses absolument délirantes. Je pense par exemple en 2006, quand le Hamas, enfin quand le Liban avait gagné, enfin le Hezbollah avait gagné un tel prestige par rapport aux Israéliens, le régime de Moubarak accusait le Hamas d'être chiite. Il avait même trouvé, il faut le faire, 1% de la population égyptienne chiite en 2007. Le brave Moubarak, je ne sais pas si on les a vraiment comptés, mais les statistiques égyptiennes de ce côté-là sont toujours un peu délicates. Il y a certainement quelques chiites en Égypte, mais 1%, ça m'étonnerait quand même. Hein? Mais le régime l'avait énoncé comme tel. Donc il y avait cette réaction sunnite au chiisme. Et du coup, tous les jeux d'alliance, de tous ces emboîtements ont été obligés de rebouger par rapport à cet événement essentiel. Alors, je l'avais déjà dit ce matin, et ça a été confirmé par les orateurs qui ont la gentillesse de ne pas m'avoir contredit, que le moment 79, c'est aussi le moment où on passe de la révolution à la stabilité. Quand on avait discuté avec ma petite équipe de ce qu'on pourrait faire comme thème de colloque, il y avait un thème qui était apparu, bon, on ne l'a pas saisi, mais qui est assez proche finalement, sans le vouloir, de ce qu'on a fait aujourd'hui, puisqu'on avait pensé faire en arabe « Mena faura illa l'istikrar », de la révolution à la stabilisation. Comment le mot d'ordre de la révolution disparaît au profit du mot d'ordre de la stabilité. Et c'est pratiquement ce qu'on a vu aujourd'hui. Les régimes soumis à la montée de l'islamisme ne font plus la révolution. Ils font des concessions importantes au mouvement islamique, ce que d'autres collègues ont appelé les islamisations par le bas, et ils vendent à leur public et ils vendent aux occidentaux l'idée de stabilisation. Le grand jeu du régime Moubarak, c'est d'expliquer aux occidentaux qu'il est la dernière barrière par rapport à la montée de la stabilisation. Et Saddam Hussein, dans les années 80, vendra à la République de François Mitterrand qu'il est le défenseur de la laïcité contre les hordes islamistes iraniennes. Du coup, on en verra des super-étendards bombarder les installations pétrolières iraniennes. Donc c'est ça, cette question qui est que les sociétés autoritaires arabes se redéfinissent par rapport à la stabilité à partir de 1979-1980, mais qui est en même temps un argument vendable. C'est une rente. Je suis la dernière barrière face à l'islamisme. On rajoutera aussi, je suis une dernière barrière face à l'immigration, et je suis la dernière barrière face à... Bon, voilà, bon, ça fait partie des rentes géopolitiques la région. Donc ça, c'était quelques remarques que je voulais faire, mais on sent combien ce paradoxe de 1979, parce que c'est un monde nouveau, défini par la stabilité, par l'identité, par un mot qui était beaucoup plus utilisé en arabe qu'en français, qui était le civilisationnel. Ah, il suffit de voir les textes politiques, ils sont constamment en discussion sur le civilisationnel. Dans les années 80, vous aurez aussi la discussion sur le rapport entre l'importé et le patrimoine, l'exogène. Et l'endogène, donc l'endogène étant toujours islamique, et l'exogène étant... D'où le fait que finalement, Edouard Saïd, ça entre très bien dans cette salade, même si lui est évidemment pas du tout partisan de ce côté endogène et qui s'en plaindra très rapidement dans ses ouvrages. Alors, deux points un peu techniques pour terminer... Je dis, les révolutions ont quitté l'Europe au début du XXe siècle. 1906, révolution iranienne, enfin persane. 1908, révolution jeune turque. 1911, révolution chinoise. Bon, évidemment, vous direz, 1917. Mais est-ce que la Russie est européenne? On ne va pas rentrer dans ce débat absolument interminable. Mais en Europe, au XXe siècle, vous n'aurez que des révolutionnaires sans révolution. D'où le fait qu'ils iront les chercher ailleurs, en particulier dans le tiers-monde. Mais jusqu'à 1979, la révolution était progressiste. Alors, on peut parler, évidemment... de la révolution conservatrice allemande, mais c'est autre chose quand même, me semble-t-il. Il y a d'autres discussions sur les historiens, mais c'est un peu tiré sa chose, savoir si le nazisme et le fascisme étaient des mouvements révolutionnaires. Tout ça est très discutable. Mais ce qui est essentiel, c'est que les révolutions, jusqu'à 1979, étaient identifiées, entre guillemets, par le progressisme. La modernisation, etc. En plus, les changements de propriété, et ainsi de suite. Or, quand on fait une révolution islamique, on n'est plus dans la gamme de la projection de la modernité. La modernité, c'est un mouvement vers le futur. Et comme je l'ai cité dans mon introduction, justement, c'est à la fin des années 70 que la flèche du temps cesse d'être orientée vers le futur. Et donc, on va avoir une révolution islamique qui ne dit pas qu'il va améliorer le sort de l'humanité, parce qu'il ne pense pas. Mais ce n'est pas du tout orienté. Ce n'est pas vers un homme nouveau, mais ce serait plutôt vers un retour à un homme qui est censé avoir existé, même si historiquement, il ne l'a pas été. D'où la nouveauté de l'idée de révolution islamique. Voilà ce que je voulais marquer sur ce point. Oui, un dernier point, c'était résistance, puisque le mot a été utilisé souvent. Résistance, évidemment, ça vient du français et de la Seconde Guerre mondiale. C'est apparu très vite, dès 1940, bien qu'il y ait eu d'autres mots comme clandestinité, underground, etc. Mais ce qui est très rapidement deviné, c'est l'idée de résistance. Et finalement, la région du monde où le mot résistance a pris racine après l'Europe, c'est le Moyen-Orient. Alors les premiers, c'est fin 67, disons le second semestre 1967, quand la révolution, quand les Palestiniens qui eux se pensaient en termes de révolution palestinienne, ont été définis comme résistance palestinienne. Ce qui a aussi entraîné ensuite, dans la guerre libanaise, une résistance chrétienne contre l'hégémonie palestinienne dans la guerre du Liban. Et puis, le troisième terme apparaît au début des années 80, justement après 1979, c'est révolution islamique, résistance islamique. Hein, c'est-à-dire le Hezbollah d'abord, et puis ensuite le Hamas, se définissent en termes de résistance islamique. Et comme ça peut être une frangier, pas le grand, là, celui qui est mort, le grand intellectuel. Non, frangier au Liban. Pas le fils de Soleiman, le fils d'Abdelhamid. Il est décédé il y a 4 ou 5 ans. Il avait appelé pour le Liban les trois résistances. Samir Frangier. Samir Frangier avait parlé des trois résistances pour remettre un œcuménisme au Liban. Et tout le débat, ben, on le voit encore depuis octobre, c'est est-ce que le terme de résistance est applicable à la situation en Palestine aujourd'hui. Et Alain a rappelé qu'il n'y a pas d'occupation sans résistance, qui, de toute façon, était quelque chose que le général de Gaulle avait déjà énoncé en novembre 1967. Bien, voilà, donc je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Je crois que nous sommes tous enrichis de tous les propos, sauf peut-être les miens, mais en tout cas, je parlerai des autres. Voilà.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.